voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment se fabrique l'obésité, la plus grosse pandémie mondiale et silencieuse. Une personne sur 10 est obèse dans le monde, soit 3 fois plus en une seule génération. La progression la plus rapide se passe en Afrique, qui fait cohabiter d'ailleurs sous-alimentation ou malnutrition et suralimentation. Grâce à l'émission Priorité Santé, vous savez quelles sont les conséquences du surpoids et de l'obésité sur la santé, l'hypertension, le diabète. Ça coûte par exemple 150 milliards de dollars au système de santé américain. Mais bien avant notre assiette, votre assiette, comment se fabrique l'obésité? C'est une histoire qui rappelle un peu celle du tabac. Nous allons parler de l'industrie agroalimentaire, des lobbies, du serpent de mer, des taxes, des étiquetages pour informer le consommateur sur les produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Et nous allons surtout scruter l'inaction des pouvoirs publics. Avec certains pays tout de même qui mènent des politiques courageuses et efficaces en Asie, en Amérique latine et en Europe pour protéger les enfants car elles sont les victimes de demain. Avec nous dans le studio Yves Lers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez une enquête extrêmement fournie et passionnante, accessible à tous, qui s'appelle « La fabrique de l'obésité » aux éditions Bûcher-Chastel. C'est un livre qui concerne tout le monde et pas seulement les personnes en surpoids parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un problème de société, un problème de tromperie du consommateur et un problème de dépenses publiques. Donc, effectivement, c'est pas la peine d'aller monter sur la balance pour savoir si on est concerné. Nous sommes également en ligne avec la principale association de consommateurs en France, l'UFC Que Choisir. Bonjour.
Bonjour.
Olivier Andreau, vous êtes chargé de mission agriculture alimentation à l'UFC Que Choisir. Donc c'est l'Union fédérale des consommateurs et l'alimentation est au cœur des missions de cette Union fédérale de consommateurs.
Effectivement, ça fait des années que l'UFC Que Choisir fait des tests comparatifs sur les produits alimentaires qui sont proposés aux consommateurs français à travers son magazine Que Choisir. Mais c'est également des bénévoles dans nos associations locales à travers toute la France qui vont aider et former et puis aussi alerter les consommateurs. Et à ce titre, nous venons de publier un petit guide sur la qualité nutritionnelle des produits industriels destinés aux enfants qui montre que malheureusement, la qualité nutritionnelle est très rarement rendez-vous.
Oui, notamment le fameux petit déjeuner. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités sur l'agroalimentaire, sur les politiques publiques. Notre WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41. Et vous nous suivez aussi en direct sur Twitter.
Vous voulez quelque chose de différent ?
Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes.
Unique, original, on n'a jamais vu ça.
Crispy white meat chicken with hot and spicy buffalo sauce.
Fast food is everywhere.
Now try the buffalo chicken strips.
Grilled chicken on flatbread.
Ah, gourmet lunch.
It's got a little name and big taste.
Bonbon gros sac, obésité, diabète, maladie cardiovasculaire.
Mmh. Mange.
Mange.
Va manger.
Manger.
Mange, 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 mange.
Tu manges pas?
Manger devrait toujours être un plaisir.
Et je vous lis quelques messages d'auditeurs postés du continent africain. La Wali est à Niamey au Niger et nous disent les industries produisent n'importe quoi sans tenir compte des impacts désastreux que leurs produits peuvent avoir sur la santé. Les pouvoirs publics, les services de contrôle des produits de consommation font très peu leur travail et quant aux consommateurs, ils s'en soucient encore très peu. Je pense qu'on pourrait aussi dire parfois la même chose sur la France. Bertrand est à Yaoundé au Cameroun. Il nous dit c'est pas parce que les fabricants de soda font de la pub qu'on doit forcément en consommer. Il y a Kwadio aussi qui dit à Abidjan en Côte d'Ivoire, chacun doit faire un effort individuellement. Les industriels font leur travail, il ne reste que le travail et la volonté des consommateurs. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est notre alimentation. D'accord ou pas d'accord, Yves Lers?
Oui et non. Je pense que en Afrique en particulier, ils ont été arrosés de produits. Je connais bien le problème à Abidjan en particulier, entre autres. Ils ont été arrosés de produits qui sont des produits tentants, qui sont des produits nouveaux. Et il y a toujours ça, c'est le fast-food arrive, bon tiens, on va aller faire un tour au fast-food parce que le fast-food c'est meilleur qu'ailleurs. C'est pas meilleur qu'ailleurs, c'est pire qu'ailleurs. Mais à un moment donné, c'est une habitude. Ça se passe de la même façon en Chine, ça se passe de la même façon en Afrique et dans plein de pays du monde comme ça. Mais sur le fond, ils ont bien sûr raison.
Et c'est la
mais
même chose.
Résister soi-même, c'est pas possible.
Il faut bien le reconnaître, c'est la même chose quand on est dans un rayon de supermarché avec les enfants qui veulent choisir leur boîte préférée de céréales ultra sucrées pour le petit déjeuner. Vous nous appelez sur le WhatsApp 33 7 64 45 51 41. On va décortiquer tous les mécanismes qui font qu'on en est arrivé là aujourd'hui partout dans le monde. Avec vous Yves Lers et avec vous Olivier Andreau.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Est-ce qu'on peut commencer avec un peu de géographie, Yves Lers ?
Ah oui, on peut
un tour du monde de l'obésité, du surpoids et donc des problèmes de santé.
C'est d'ailleurs comme ça que c'est devenu vraiment une pandémie. Et c'est la première pandémie d'une maladie non infectieuse. On connaît une autre maladie infectieuse dont on ne parlera pas maintenant. Mais c'est la première. Et c'est là la catastrophe, justement. Tout a commencé aux États-Unis dans les années 70. On a fait une agriculture de plus en plus productive. Et à un moment donné, il fallait écouler. Et comment écouler des produits comme ça? Eh bien, en mangeant. Mais en mangeant tout le temps. En mangeant tout le temps, n'importe comment, Surtout n'importe comment, d'ailleurs.
Et en augmentant la taille des portions.
Et en augmentant la taille des portions et en faisant baisser les prix. Donc, du coup, le résultat, vous mangez plus, vous arrivez à satiété. Quand vous doublez la satiété, quand vous doublez le truc, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous grossissez. Et comme ce sont des produits qui sont mal transformés, qui sont très transformés, qui sont ultra transformés, ces produits-là vous font grossir parce qu'au bout d'une heure, vous avez de nouveau faim et vous mangez de nouveau et tout le monde est content, sauf le consommateur, naturellement, qui ne se rend pas compte qu'il grossit comme ça.
Alors, continuons ce tour du monde.
Ça
touche beaucoup les pays anglophones, dites-vous,
voilà.
Dans votre
Donc, c'est parti des États-Unis et c'est arrivé en Angleterre, logiquement, comme toujours. L'Angleterre est d'ailleurs un des pays les plus touchés en Europe, avec 30% d'adultes obèses. Et ils commencent à s'en rendre compte, y compris leur premier ministre.
Parce que dans ce pays, plus de 50% des denrées alimentaires absorbées par la population proviennent d'aliments ultra transformés.
Exactement, c'est la catastrophe. C'est vraiment, vraiment la catastrophe. De l'Angleterre, on est passé au reste de l'Europe, y compris chez nous. On n'est pas à 30%, chez nous en France, excusez-moi, on n'est pas à 30%, mais on est autour de 18-20% d'adultes obèses, ce qui est quand même pas ridicule du tout, comme ça. Et puis les autres pays de l'Europe, on est passé en Afrique, ce que nous venons de dire, effectivement. Et en Afrique, c'est que le début, c'est-à-dire qu'on voit que la dénutrition, à un moment donné, rejoint la surnutrition. Il y a un équilibre qui est cassé, et c'est cet équilibre-là, pour arriver à le retrouver, ça va être très compliqué. Ouais. De l'Afrique, on peut passer.
Alors l'Afrique, l'accélération la plus forte au monde, ça ne veut pas dire que c'est là qu'on a la plus grande concentration de personnes obèses et en surpoids, bien sûr, mais l'accélération la plus forte au monde, c'est Mali, Burkina Faso, Guinée-Bissau. Burkina Faso, on est passé de 0,3%,
oui, c'est sûr,
pas d'obèses, à 7% voilà. En 20 ans.
La progression est forcément énorme puisqu'on partait de zéro,
oui,
pratiquement. Mais 7%, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on est parti de rien et tout d'un coup, cette transformation de l'aliment, on a importé d'autres aliments que les aliments traditionnels africains, que les céréales traditionnelles africaines, pour vendre notre blé en plus, pour vendre notre lait, notre surplus de lait, etc. Donc le résultat, il se fait attendre et puis il y a les effets de mode. Voilà, ça fait bien de manger ça, etc. Si je continue après l'Afrique,
oui, on continue.
on continue. Je vais en Amérique latine d'abord et tout. L'Amérique latine, elle a bénéficié entre guillemets des États-Unis.
Accords de libre-échange, notamment.
Voilà, c'est ça. Des accords de libre-échange qui normalement devaient être très bénéfiques à ces pays-là. Je pense en particulier au Mexique, puisque c'est le Mexique qui était le premier bénéficiaire, et puis le Chili à côté, et puis naturellement le Brésil dedans. Le Mexique, c'est une catastrophe. Ils ont eu un président président, qui était le patron de Coca-Cola. Donc vous imaginez le résultat après. On vendait des bidons de 3 litres à des prix absolument dérisoires dans des campagnes et tout. Ben, le Coca-Cola, il faut se souvenir, le Coca-Cola ou le Pepsi, hein, c'est pareil. Hein,
On va parler des sodas pour éviter les procès. Parce que...
C'est 35% de sucre dans une canette. Quoi. Mmh. Quelle que soit la marque, peu importe la marque. De là, je passe tout de suite en Asie. En Asie, c'est assez différent suivant les pays. Il y a des pays qui sont absolument pas touchés par l'obésité, comme le Vietnam, la Corée du Sud et le Japon. Au Japon, l'obésité, elle est interdite. C'est pas compliqué, il y a des contrôles, etc. On n'a pas le droit d'être obèse. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr.
Notamment dans le monde du travail, par exemple.
Dans le monde du travail, il y a des contrôles. Et c'est une loi qui est ancienne, hein, qui date de 2008, mais qui est toujours appliquée. Et si vous avez quelqu'un d'obèse, eh ben, après, vous avez un rappel.
Ça suffit à expliquer qu'il y ait très peu d'obèses au Japon ?
Non, ça ne suffit pas forcément. C'est parce que la nourriture traditionnelle japonaise est excellente. Ce qui est vrai au Vietnam, ce qui est vrai aussi en Corée.
Oui, mais il y a plein de pays où il y a une très bonne alimentation traditionnelle et ça n'a pas empêché qu'elle soit recouverte par une nourriture américanisée, occidentalisée, industrielle.
Oui, parce qu'on a basculé et qu'on a oublié cette alimentation traditionnelle, ce qui est vrai en partie en France, en Italie, en Espagne, où on a une très bonne, et bien sûr en Afrique. En Afrique, il y a une alimentation traditionnelle qui est parfaite du moment qu'il y a les aliments et qui sont disponibles.
Alors le Japon, la Corée du Sud résistent encore à l'épidémie, à la pandémie mondiale d'obésité, 5% d'obèses, 4% d'obèses. On a à peu près fait le tour du monde. C'est intéressant parce qu'on parlait de ces accélérations très fortes en une génération. Au Chili, on a les deux tiers d'enfants obèses ou en surpoids, alors qu'il y a 30 ans, c'était des pays où il fallait combattre la malnutrition, en tout cas.
On dirait qu'on est passé d'une sous-nutrition à une surnutrition. Mmh. Une surnutrition mauvaise. Mmh. J'ai oublié un pays dans le tour du monde déterminé par celui-là, c'est la Chine. La Chine, c'est la catastrophe. C'est déjà 45-50 millions d'obèses. Hein, ça fait pas beaucoup par rapport à la Chine. Ça fait beaucoup si on calculait chez nous ce que ça représente. Et la Chine, ben, c'est l'importation des produits comme ça et des boissons et des sodas, etc.
Socialement, qui sont les personnes les plus touchées ?
Socialement, c'est forcément les pauvres. Dans nos régions, dans nos villes, c'est les banlieues, c'est des endroits comme ça, c'est les gens qui sont pas riches.
C'est pas le cas en Afrique, hein, en revanche.
Non, c'est pas le cas en Afrique parce que déjà, il y a beaucoup de... La pauvreté est assez généralisée, mais il n'y a pas que des pauvres. Mais justement, en Afrique, c'est ça qui est surprenant, c'est que ça touche plutôt des classes moyennes.
Urbaines.
Classes moyennes et urbanisées, oui, et urbaines, et qui, elles, se disent, bah, allez, voilà, je vais aller manger dans un fast-food parce que ça fait chic, etc. Et donc, du coup, pour l'instant, ça ne touche pas les classes les plus pauvres.
Alors, vous citez un chiffre, en France, à 6 ans, les enfants d'ouvriers sont 4 fois plus touchés par l'obésité que les enfants de cadres. Les enfants sont les premières victimes.
Les enfants sont de toute façon les premières victimes. Les enfants sont effectivement les obèses de demain. On dit que les enfants sont touchés par une maladie d'adulte. C'est le président mexicain dit. Pourquoi les enfants sont touchés par une maladie d'adulte ? Mais ils sont touchés par une maladie que les adultes leur refilent, leur transmettent. Et c'est ça le problème. Et le problème de 2030, avec des chiffres qui sont donnés par l'OMS et qui font peur, eh bien c'est justement d'arriver à faire en sorte que ces enfants-là soient sauvés, entre guillemets, pour éviter ça. Vous dites qu'à 6 ans ou 7 ans, il y a déjà énormément d'enfants obèses ou en surpoids. Parce qu'il ne faut pas oublier le surpoids qui est également dangereux et tout. C'est pas tout le...
Alors, parfois, c'est vrai que les chiffres, on ne sait pas si à l'intérieur, vous additionnez surpoids et obésité ou il n'y a que obésité.
Oui,
enfin, si on prend le cas de la Polynésie, 70% de la population est en surpoids ou obèse. Un enfant sur trois obèse. Vous citez des biberons remplis de lait sucré ou parfois de soda.
Directement. Le
sucre est subventionné en Polynésie. Le beurre en boîte est subventionné, dites-vous. Hein. Les conserves de fruits sucrés sont subventionnées, pas les fruits et les légumes produits localement. Je voudrais que vous nous réexpliquiez...
C'est vrai aussi dans les départements d'outre-mer français. Hein.
Qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé, en deux mots ?
Alors, un aliment ultra transformé, vous prenez une grosse machine et vous mettez plein de choses dedans qui va ressembler à une nourriture. Ça va ressembler à une nourriture, mais c'est pas une nourriture, justement. Parce qu'au départ, il faut que ça puisse avoir bon goût. Donc la machine, elle peut, à partir d'un lait, vous sortir aussi bien du camembert que du brie ou autre chose. Vous appuyez sur le bouton et c'est tout. C'est extrêmement technologique. Et au départ, à l'arrivée, vous avez une barquette avec un produit. Ce produit, normalement, il n'est pas bon. Donc, puisqu'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on rajoute du sucre, qui lui-même n'est pas bon. On rajoute du sel, qui lui-même n'est pas bon. On rajoute des tas d'additifs qui, eux-mêmes, à partir de cinq additifs, on est dans l'aliment ultra-transformé. Prenez les barquettes, retournez-les, regardez les trucs. Qu'est-ce que c'est arrivé que les consommateurs soient conscients de ce qui se passe dans leur barquette ?
Alors, c'est compliqué comme sujet parce qu'il y a énormément de normes dans l'industrie agroalimentaire. Oui. Et le discours des industriels est de dire, mais évidemment qu'on respecte toutes les normes. Mmh. Et c'est là qu'interviennent aussi les pouvoirs publics. Je voudrais vous lire le message d'un auditeur qui a posté de Bafoussam au Cameroun. Il nous dit, j'ai fait mon stage académique dans une usine qui fabrique du concentré de tomates et j'ai été sidérée de voir l'état des tomates utilisées et les produits qui sont ajoutés au concentré pour la conservation, la présentation. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je reste dégoûtée par ces tomates en sachet que l'on voit sur nos marchés et je plains beaucoup les pouvoirs publics qui laissent passer les pubs de ces produits, y compris le bouillon cube, sans en vérifier les compositions.
Je ne sais pas s'il faut les plaindre, les pouvoirs publics.
Je vous lis le message de cet auditeur. On ne mange plus comme avant, ça touche tous les pays du monde. Aujourd'hui, Olivier Andreau, l'Union fédérale des consommateurs en France, mais partout dans le monde, il y a des consommateurs qui se mobilisent. Comment se fait-il que finalement cette pandémie soit relativement silencieuse ?
Mais, tout simplement parce que c'est une pandémie qui avance à bas bruit. Il n'y a pas, on ne meurt pas tout de suite du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires. C'est quelque chose qui, finalement, qui arrive plus tard dans le temps, qui est dilué au cours de très nombreuses années. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on a l'impression que la responsabilité, il n'y a pas un responsable, mais un coupable. Il y a une responsabilité qui est diluée, qui, effectivement, peut intégrer la responsabilité du consommateur individuel, mais finalement, il n'a pas tellement le choix, hein, aussi bien dans les pays développés que dans les autres, puisqu'il est un petit peu, pieds et poings liés face aux recettes des industriels. Hein. Vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur les recettes qui sont décidées par les états-majors. Et puis, il est également pieds et poings liés par rapport au marketing, hein, et notamment chez les enfants. Les enfants n'ont pas l'esprit critique qui leur permet de résister à cette arme terrifiante, hein, du marketing, qui est très insidieuse. Et puis il y a aussi donc la responsabilité bien évidemment des industriels. C'est les industriels qui décident tout d'abord de leurs recettes. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette richesse en sucre, en matière grasse et en sel? C'est pas parce que il n'y a pas de théorie du complot, c'est tout simplement parce que on est un peu piégé par nos gènes. Génétiquement, le jeune enfant et puis l'adulte vont préférer des saveurs sucrées. Ils vont préférer des textures onctueuses, des goûts un petit peu relevés.
Donc, et ça coûte quand même moins cher à fabriquer, on fait plus de marge aussi quand on est un industriel, non?
Mais bien sûr, parce que finalement, c'est le sel, le sucre et le gras, c'est ça
pas
finalement.
Très cher.
Une des avancées de l'industrie, c'est que ça a permis de rendre ces produits qui étaient chers autrefois, ça vaut rien maintenant.
Alors, restez en ligne avec nous, bien sûr, Olivier Andreau, Yves Lers. On a un auditeur dans quelques instants qui voudrait aussi vous poser une question. Et puis, on va voir comment on a produit des économies ou manger des fruits et légumes et céréales produites localement. Finalement, ça coûte plus cher qu'une pizza ou un soda. On va donc parler des politiques publiques, des taxes, des lobbies, des normes, de la publicité, qui est une arme de guerre très efficace pour que les enfants réclament précisément ce qui est mauvais pour eux. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41 pour poser toutes vos questions.
Rester jeune? Non. Rester vieux? Non. Savoir vivre avec ses baisses d'hormones. Biologique? Yeah. Génétique? Yeah. Une vie saine aide à contrôler son cortisol. Respecter son horloge biologique n'est pas antagonique à qui qu'est le putain de hit. On dort 2 heures de moins qu'en 1910. Sur notre chimie interne, ça change toute la notice. Ce n'est pas mon iPhone qui me dira le contraire, avec lequel je like tout et son contraire. Donc je suis le flot de ma mélatonine pour que la nuit ne soit pas qu'un soleil qui culmine. Pollution lumineuse, des règles horloge interne, et je kick ça en ville au milieu de toute cette merde. Putain, ils nous ont bien niqué. Réapprendre à vivre devient un vrai métier. Tu rêves de Testarossa, mais t'as plus de testostérone. Inquiète-toi plus de ça, reprends ta couronne. Je mange une poignée de myrtille. et ma mémoire sera toujours fertile. Occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, yeah, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, yeah, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, yeah, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, yeah, occupe-toi de toi, occupe-toi de toi, yeah, occupe-toi de toi. Occupe-toi, toi, comme ta DHEA. Contrôle-la, comme tes oestrogènes. Bien sûr qu'avec la change la nature humaine. On perd des hormones, donc on perd des facultés. Notre alimentation n'est plus adaptée. Vieillir en bonne santé, le challenge des prochains vieux pépés. Ce n'est pas qu'une question de blé. Tu peux être blindé et mourir comme un teubé. Car t'as mangé beaucoup trop sucré ou empoisonné, car t'as trop fumé, pas assez marché, pas assez mâché, et ta glycémie n'a fait qu'augmenter. Dormir, reprendre son corps en main, redevenir l'ami d'un meilleur lendemain. La graisse viscérale est la plus toxique, donc régime paléolithique au service de la recherche scientifique. Médecine préventive, c'est la clé de cette zik. Occupe-toi toi, occupe-toi toi, occupe-toi toi, yeah, occupe-toi toi. Occupe-toi toi, yeah, occupe-toi toi, occupe-toi toi, yeah, occupe-toi toi, occupe-toi toi, occupe-toi toi, occupe-toi toi, yeah, occupe-toi toi, occupe-toi toi, yeah, occupe-toi toi, occupe-toi toi comme ta DHEA.
Eh oui, les artistes aussi ont des messages à faire passer. Engagés, Rockin' Squat, mieux vivre. Vous écoutez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et on parle de cette pandémie mondiale de l'obésité, de toutes les maladies qui en découlent et de la mortalité que ça provoque. Mais surtout, nous, on regarde en amont de l'assiette comment on a pu en arriver là, comment en une ou deux générations, on a complètement transformé notre alimentation et dans certains pays, comment on est passé de la sous-nutrition, de la malnutrition à la surnutrition. C'est le cas notamment en Amérique latine ou dans certains pays du continent africain où les deux cohabitent d'ailleurs entre la zone rurale et la zone urbaine. Alors on vous donne la parole, bien évidemment, les voisins et les voisines au 33 7 64 45 51 41. Tariq est en ligne avec nous à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Tariq.
Bonjour.
Tariq, vous avez 24 ans, vous êtes étudiant et vous avez dit d'ailleurs au standard que vous consommez des produits maison.
Oui, d'habitude.
Oui. On vous écoute, Tariq.
Alors, ma question était la suivante. Pourquoi laisser les industriels fabriquer tous ces produits parfois trop gras, trop sucrés ou trop salés et les mettre à disposition des consommateurs à moindre coût pour ensuite injecter des millions d'euros dans les campagnes de sensibilisation et de contrôle de ces produits?
Ouais,
pourquoi ne pas contrôler la production directement au niveau des industries?
Ça serait plus logique.
Ce serait plus logique.
Hilaire.
Mais écoutez, oui, vous avez raison, sauf que les campagnes de sensibilisation, c'est très rarement les industriels qui font ces campagnes-là. Il faudrait aller au-delà des campagnes et la seule solution, c'est qu'à un moment donné, il faut réglementer. Certains pays l'ont fait et c'est efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut réglementer en premier, c'est le marketing et la pub. Et particulièrement la pub destinée aux enfants. Mais bon, on n'en est pas là et un peu partout.
Olivier Andreau, oui, Yves Lers, donc je le rappelle, hein, vous publiez La Fabrique de l'obésité, enquête sur un fléau planétaire. Et Olivier Andreau, vous représentez l'UFC Que Choisir, l'Union Fédérale des Consommateurs. Ceci dit, les lobbies de l'agro-industrie, parfois, se piquent de vouloir faire de la prévention. Non ?
Oui, bien sûr, effectivement, c'est un faux masque de l'industrie, puisque l'objectif des industriels en termes de lobby, c'est quoi ? C'est d'éviter toute réglementation, toute loi qui limiterait leur liberté. Liberté de définir les recettes comme il leur semble, ou liberté de promouvoir des produits particulièrement déséquilibrés, y compris à destination des enfants. Donc, pour éviter que les pouvoirs publics agissent et restreignent leur liberté, eh bien, ils vont monter en épingle des pseudo-engagements, des chartes volontaires, tout ce qui ressemble à de la loi, mais en fait qui n'en est pas. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Et ça, c'est la tactique principale pour dire aux pouvoirs publics, regardez, faites-nous confiance, ce n'est pas la peine que vous agissiez.
Mais c'est le cas tout de même pour certaines marques qui disent, regardez, on met moins de sucre, on fait attention, on est bien conscient des risques.
Mais ils font ça sur certains produits, pas sur tous.
Mais là, je voudrais. Depuis une vingtaine d'années maintenant, en France, les pouvoirs publics, qui sont parfaitement conscients du problème, ont essayé de mettre en place des groupes de travail incitant les professionnels à diminuer volontairement les taux de gras, de sel et de sucre. Je vais vous donner un chiffre. En 20 ans, le pourcentage de sucre dans la consommation des hommes et des femmes adultes en France a baissé de 0,4% après ces engagements volontaires. Pour les acides gras saturés, c'est-à-dire les mauvais, ce qu'il faut diminuer, c'est 0,1%. Et pour le sel, c'est moins 1,1%. Donc vous voyez, ces engagements, c'est de la poudre aux yeux. Ça n'a aucun impact pour améliorer nos consommations.
Le lobby de l'agro-industrie utilise aussi d'autres méthodes, notamment de détourner l'attention sur d'autres problèmes. On nous a longtemps dit que, par exemple, faire de l'exercice physique, ça a été le cas du plan Michelle Obama, me semble-t-il, aux États-Unis, où l'exercice physique devenait la priorité pour lutter contre l'obésité. Alors, aucun médecin va dire que l'exercice physique, c'est mauvais pour la santé. Bien évidemment, c'est pas ça la question.
Bien sûr, mais ça ne fait pas maigrir. C'est ça le problème. C'est très bien pour le cœur, c'est excellent.
Si on ne pratique que l'exercice physique et si on ne change pas d'alimentation.
Bien sûr, mais l'exercice physique tout seul, et vous continuez à manger comme ça, bah, ma foi, vous resterez stable, si j'ose dire, c'est-à-dire avec un surpoids. Pour revenir sur ce qu'on disait sur l'autorégulation. L'autorégulation, elle est inefficace complètement. Elle est tellement inefficace que la Cour des comptes en France a elle-même écrit noir sur blanc que l'autorégulation, il fallait en sortir. Donc c'est vraiment à partir du moment où dans tous ces domaines-là, on laisse à l'industriel qui fait son beurre, excusez-moi de la comparaison, avec ces systèmes-là, à ce moment-là, on sait qu'on va dans le mur.
Ça veut dire que les pouvoirs publics, jusqu'à maintenant, on se disait qu'il fallait faire des campagnes de prévention, comme le disait cet auditeur, hein, dans plein de pays, inciter plutôt que interdire. Aujourd'hui, il faut des lois beaucoup plus coercitives. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux, par exemple, des taxes soda, puisqu'il y a des expériences dans de très nombreux pays de taxes soda?
Il y en a une chez nous aussi en France qui a donné des résultats qui ne sont pas du tout négligeables. Il faut aller plus loin.
Olivier Andreau, pour la France.
Même chose, les taxes, ça peut être un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil complémentaire. Mais c'est ce qu'on appelle le signal prix. Pour que ça marche, il faut que le consommateur sente vraiment une forte différence de prix entre le produit qui est taxé et le produit qui l'est pas.
C'est ça, on est d'accord que la taxe soda, ça fait augmenter le prix. C'est le même principe que sur le paquet de cigarettes, ça fait augmenter le prix du produit.
De trois fois rien, la taxe soda, c'est quelques centimes d'euros, donc c'est vraiment négligeable. Donc, si on veut qu'un jour ça ait un impact, il faut que la taxe, d'une part, soit beaucoup plus élevée sur les produits qui posent problème, hein, donc par exemple des produits destinés aux enfants qui sont très gras, très salés, trop sucrés, mais il faut que ça soit neutre pour le consommateur en termes de budget. Donc cet argent qui est pris quelque part, il faut qu'il soit rendu au consommateur, notamment pour subventionner les produits qui sont intéressants pour la santé.
La Malaisie, par exemple, taxe à 40% chaque litre de soda qui contient plus de 5 grammes de sucre.
Est-ce que les industriels ont baissé la quantité de sucre aussi dans leur soda.
Bon, mais c'est bien ça.
C'est bien. Ils comprennent très bien ce qui s'est passé au Chili où on est arrivé à confier aux enfants l'exercice d'expliquer. Et quand c'est les enfants qui expliquent aux enfants, ça marche toujours bien. C'est comme les histoires de déchets chez nous. Ça marche toujours très bien.
En revanche, le Mexique, dont les consommations de boissons sucrées a triplé en 20 ans, expliquez-vous, il y a pourtant une taxe de 10% depuis 2014. Elle n'a pas eu d'effet, cette taxe soda?
Non, c'est ce que venait de dire M. Andreau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante. À un moment donné, on est sur un panel de mesures. On n'est pas sur une mesure à un moment donné. Il faut tout un ensemble de mesures qui accompagne. On a parlé en France de la consommation des légumes. Eh bien, avec des campagnes de je ne sais pas combien de légumes par jour et de fruits et de légumes, eh bien, vous savez les résultats.
Manger 5 fruits et légumes par jour.
Voilà, on n'a jamais si peu consommé de légumes.
Et pourquoi?
Et c'est l'interprofession. Parce que ça coûte cher, parce qu'il faut les préparer, parce qu'on préfère des trucs tout cuits qu'on met dans le micro-ondes et puis après on mange ça.
Non mais là, vous êtes en train de culpabiliser le consommateur, là.
Non, je pense qu'il faut revenir sur la responsabilité de l'industrie. Il faut obliger l'industrie agroalimentaire à modifier ses recettes et aussi à améliorer la composition de ses produits alimentaires. C'est pas normal qu'il y ait une proportion si faible de fruits et légumes dans la majorité des produits tout prêts à l'emploi. Il faut que les pouvoirs publics obligent les industriels. Par exemple, sur la problématique du sucre, bon, je t'ai dit que les engagements volontaires, ça marche pas. Ça a été mesuré, c'est démontré depuis longtemps. Mais il faut savoir que donc il y a 3 ans, pour la première fois, l'ANSES, notre agence de sécurité sanitaire en France, a dit, bah écoutez, ça marche tellement pas qu'il faut en passer par la loi, il faut définir des objectifs d'amélioration nutritionnelle obligatoires. Et si les industriels ne s'y conforment pas, eh bien il faut qu'il y ait des amendes. Voilà.
Alors si on prend l'exemple des territoires d'outre-mer, où il y a eu la loi Lurel sur le sucre votée en 2011, me semble-t-il,
oui, c'est ça,
pour que les produits ne contiennent pas plus de sucre qu'en métropole.
Mais vous voyez bien, dans l'expression même de cette loi, elle est extrêmement timide, puisque qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit juste, il ne faut pas que la version d'un produit alimentaire qui est vendu en outre-mer soit plus grasse, plus salée ou plus sucrée que la version
nationale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit pire que pire. Mais pourquoi déjà 3 ans pour que sortent les décrets d'application et qu'au final, la loi est relativement peu appliquée ? C'est quoi le problème là, Olivier Andraud ? Parce que vous êtes là, les associations de consommateurs, vous tirez la sonnette d'alarme, vous siégez dans les discussions au Conseil national de l'alimentation, dans les think tanks aux côtés des industriels et des pouvoirs publics. Pourquoi on en est encore là, par exemple, sur le cas de l'outre-mer ?
Parce que c'est une accumulation de dispositions qui font que les ONG ne sont pas entendues. Vous citez par exemple ces différentes instances de concertation qui ont une apparence démocratique, où les pouvoirs publics semblent demander aux ONG, aux nutritionnistes leur avis. Sauf que dans ces instances, on est systématiquement très minoritaire par rapport au pouvoir de l'industrie. Donc ça veut dire que nos propositions ne seront pas adoptées. En ce qui concerne le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, eh bien, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, qui est implantée très fortement dans tous les départements de la France, dans un très grand nombre de communes, a un poids en termes de lobbying qui est énorme. Et c'est ça la raison finalement pour laquelle les pouvoirs publics n'osent pas agir, parce qu'ils ont peur d'aller à l'encontre des desiderata de l'industrie agroalimentaire.
Mais l'industrie agroalimentaire dit, mais écoutez, nous on est désolés, mais les consommateurs, nos clients, ne veulent pas de produits moins salés, ne veulent pas de produits moins sucrés, ne sont pas attirés par ces produits-là. C'est quand même... chiffre des ventes à la pluie.
Est fait pour les attirer, justement. Tout est fait grâce au marketing et grâce à les cochonneries qu'ils mettent dedans, parce qu'elles sont attirantes, justement. Et elles sont pas chères.
Moi, je voudrais prendre un exemple qui est très parlant. C'est les céréales du petit déjeuner. C'est quelque chose qui n'existait pas en France avant les années 60. Et donc, c'est à partir des années 60 où ce produit industriel américain est arrivé sur notre marché. À l'époque, si on exprime en termes de Nutri-Score, vous savez cet étiquetage nutritionnel qui est très compréhensible, qui va de A pour les produits les plus intéressants du point de vue nutritionnel, à E pour les produits qui sont les plus gras, les plus salés, les plus sucrés. À l'époque, les céréales du petit déjeuner américain, elles étaient Nutri-Score B, parce qu'il y avait déjà un petit peu de sel pour donner du goût. Et puis on a voulu rajouter du chocolat, Nutri-Score C. Et puis on a voulu rajouter, en plus du chocolat, un cœur fourré avec des acides gras saturés, de l'huile de palme, Nutri-Score D. Et donc vous voyez, en moins de 2-3 décennies, un produit qui n'était pas trop mal du point de vue nutritionnel a été dégradé parce que les industriels veulent toujours, finalement, utiliser cet argument du gras, du sel et du sucre pour avoir des produits de plus en plus gourmands, pour attirer les consommateurs vers leurs produits. C'est une sorte, finalement, de pousse au crime nutritionnel entre les différents industriels pour faire pour essayer de se gagner des parts de marché les uns aux autres.
C'est un piège.
Puisque vous parlez de Nutri-Score, c'est devenu ça a quelle place sur le marché en France aujourd'hui ?
C'est quelque part aux alentours d'un quart des produits, pas plus, qui portent le Nutri-Score, tout simplement parce que
c'est pas obligatoire.
Il n'est pas obligatoire. Il faut savoir.
Vous avez lancé une pétition en 2019, l'USC Que Choisir, et vous n'avez pas recueilli autant de signatures qu'espérées d'ailleurs sur ce sujet.
C'est une pétition européenne.
C'est difficile. C'est difficile de mobiliser les consommateurs sur un sujet aussi complexe que ça, hein, de leur dire, écoutez, on va faire appel à votre responsabilité consommateur et pour que vous puissiez l'exercer, il faut que vous ayez un outil d'information. Vous imaginez, c'est quand même, c'est difficile de mobiliser là-dessus.
Alors, il y a quand même beaucoup de pays maintenant qui se mobilisent sur l'étiquetage. reportage hein, sur la bataille des étiquettes. Vous parliez de Nutri-Score, c'est-à-dire où on est renseigné sur le fait qu'un produit soit pas bon pour la santé, faiblement nutritif. C'est le cas de la Suède, de la Grande-Bretagne. Il y a des logos pour distinguer les produits les plus sains. Au Brésil aussi, il y a maintenant un affichage du niveau de transformation d'un produit, me semble-t-il. Hein. Et surtout, le Chili, Yves Lers, hein, le Chili qui a mis au point le plan sur l'alimentation en 2016, une loi sur l'alimentation voulue par la présidente de l'époque, Michelle Bachelet, socialiste. Et là, on s'est engagé sur une toute autre voie au Chili.
Et un sénateur médecin qui s'est bagarré pour l'imposer. On s'est engagé sur une toute autre voie.
C'est-à-dire qu'on change les emballages.
Voilà, c'est ça. On change les emballages et on met des étiquettes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ou ABCD.
Ouais, voire des trucs en noir, voilà, stop, là, quand même assez...
Qui sont obligatoires.
Ça fait penser au paquet de cigarettes actuel.
C'est-à-dire, exactement. On n'est pas loin, hein, vous savez, de l'histoire de la cigarette. Sauf qu'on peut s'arrêter de fumer, on ne peut pas s'arrêter de manger. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça, en tout cas. Mais
et un slogan au Chili, toutes les heures, un Chilien meurt d'obésité. Résultat, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Chili, on a moins de sucre dans les sodas. On a moins de sel dans les plats. Est-ce qu'on a des résultats tangibles ensuite au niveau de la santé publique ?
On a des résultats tangibles surtout sur les sodas. Parce qu'à partir du moment où vous baissez le sucre dans des sodas où il y a 35 grammes de sucre dans une canette de 37 centilitres, ben le résultat, il est rapide. Et surtout dans les pays où, comme vous le disiez tout à l'heure, on arrive à nourrir des enfants, y compris des bébés, comme ça, parce que l'enfant, il dort mieux, il est bien, il a son sucre, etc. Et tout, et la mère est tranquille. Et c'est encore une histoire de pauvre. Comme toujours, ça revient sur cette histoire de précarité qui est la base de ce grand problème.
Note, ceci dit, Olivier Andreau, il y a aujourd'hui des industriels qui acceptent le Nutri-Score, qui acceptent la transparence.
Pas sur tous leurs produits, comme par hasard.
Olivier, alors, oui.
Oui. Bon, écoutez, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où le Nutri-Score commence à s'imposer en France, même s'il est volontaire, on voit que ça... C'est enfin un outil qui met la pression sur les industriels, sur les états-majors, pour enfin améliorer leurs recettes. On voit par exemple que les céréales du petit déjeuner pour enfants, il n'y en avait pas une avec un Nutri-Score qui soit inférieur à C. C'est-à-dire des produits quand même très gras, très salés. Maintenant, on se rend compte qu'il y a déjà des céréales sur le marché qui sont Nutri-Score B, et j'ai même vu une céréale du petit déjeuner pour enfants Nutri-Score A. Mmh. Alors attention, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas l'idéal du point de vue nutritionnel, parce que ça reste que des produits très transformés. Ce sont des céréales qui ont subi un processus qu'on appelle d'extrusion, c'est-à-dire que la molécule d'amidon est assez endommagée, donc ça commence à ressembler un petit peu à des sucres rapides, vous savez, ceux dont il faut limiter la consommation.
Donc c'est moins nutritif.
Ça veut dire que quand vous donnez au consommateur une information qui est immédiatement compréhensible et qui traduit plus ou moins la qualité nutritionnelle des produits, eh bien ça a un impact. Et donc ça a un impact qui est double. Un impact sur le consommateur qui va améliorer sa consommation à travers ses achats. Et deuxièmement, un impact sur les industriels pour améliorer leurs recettes. Donc il faut aller plus loin là-dedans. Il est probable qu'il faudra à terme améliorer le Nutri-Score pour qu'il prenne en compte le degré de transformation des produits, hein, chose qu'il fait pour le moment de manière imparfaite. Vous savez, Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Le Nutri-Score, c'est quand même de loin le meilleur outil d'information.
Mais quand même, le prix reste aussi le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, si on revient à la situation de pays d'outre-mer, de régions d'outre-mer et ailleurs dans le monde, quand on voit que des produits mauvais pour la santé continuent d'être subventionnés et donc sont plus facilement utilisés par les industriels, alors que les filières fruits-légumes ne bénéficient d'aucune aide la plupart du temps. Est-ce que vous essayez aussi d'agir là-dessus ou pas, Olivier Andreau ?
Mais bien sûr, ça c'est une position ancienne de l'UFC que choisir, hein, qui est de taxer les produits qui sont mauvais pour la santé d'une manière générale, que ce soit au niveau alimentaire, ou environnemental ou autre. Et donc il n'est pas normal que la TVA, par exemple, sur des produits alimentaires particulièrement gras, salés et sucrés, soit ridiculement faible au regard de leur impact nocif sur le long terme. Donc ça, c'est important. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les filières industrielles pour utiliser des produits moins raffinés n'existent plus, tout simplement parce que à ces filières se sont substituées des filières pour du, vous savez, de, on appelle le cracking à l'image de ce processus qui existe pour le pétrole, où on va diviser un produit alimentaire en sous-composés, en molécules extrêmement fines qui n'ont plus d'intérêt nutritionnel. Donc ça veut dire qu'il faut essayer que les pouvoirs publics incitent les filières industrielles à revenir vers des ingrédients beaucoup moins transformés, beaucoup plus bruts.
C'est ce que vous dites dans votre livre, Yves Lers, vous citez des chercheurs. Là, évidemment, vous citez une phrase qui n'est pas facile à comprendre. Hein. C'est l'artificialisation des matrices alimentaires qui pousse à manger plus que de raison. Vous avez expliqué hein, ce phénomène-là.
Ça rejoint ce qui vient d'être dit. Ici, la matrice, c'est ce qui compose l'ensemble. C'est, effectivement, ce n'est pas un concept très facile. Et c'est cet ensemble-là qui est cassé, et qui est cassé, qui provoque une multitude de petits produits alimentaires qui eux-mêmes provoquent l'obésité.
Ouais, c'est l'inverse d'une céréale qui serait juste pilée au mortier et qu'on mangerait avec de l'eau, lait pour une bouillie du matin. C'est l'inverse.
Exactement. Mais le produit qui est réglementé maintenant, etc., et celui sur lequel on a quand même le plus de possibilités de bonne nutrition, c'est quand même un produit bio. Hein.
Je voudrais qu'on dise un mot actuellement de la bataille de la publicité. En quoi la publicité pour des produits alimentaires est une machine à faire grossir les enfants? Quelles sont les études qui le prouvent, Yves Lers?
Les études, elles sont tout simplement... Je pense que l'UFC l'a bien analysé justement dans ces dernières études.
Je parle de la publicité à la télévision.
Oui, la publicité à la télévision. Dans tous les pays où on a réglementé la publicité, les Anglais sont en train de le faire et ils avaient déjà fait avant le truc.
Eux, ils ont un boulot. Parce que Boris Johnson a eu le Covid et il aurait changé de regard sur l'alimentation et le surpoids.
Il paraît qu'il court un peu, mais ça, c'est autre chose maintenant. Mais ces effets-là qu'on constate aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire demain? On n'en sait rien. Je veux dire, c'est ça le problème principal, quoi.
Mais je crois que sur la bataille concernant la publicité télévisée, c'est une vieille bataille. Hein. Il faut savoir ça fait plusieurs décennies que les nutritionnistes, les pédiatres donc mettent en avant la solution qui est d'interdire tout simplement et très clairement la publicité pour les produits alimentaires destinés aux enfants lorsqu'ils sont trop gras, trop salés, trop sucrés. Donc la solution, on la connaît.
Vous, c'est ce que vous demandez en tout cas à l'UFC.
Et c'est ça. C'est-à-dire concrètement, hein, aux côtés de ce que dit d'ailleurs le ministère de la Santé, Santé publique France a dit tout récemment qu'il faut interdire la publicité pour les aliments destinés aux enfants qui sont de Nutri-Score D et E, c'est-à-dire les plus riches, les plus caloriques. Maintenant, le problème, c'est que les pouvoirs publics français, jusqu'à présent, n'ont jamais osé mettre en œuvre cette mesure. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a une opposition forcenée de la part du lobby de l'industrie agroalimentaire, et puis il faut dire aussi de certains médias privés, dont la principale ressource est la ressource publicitaire. Or, nous, ce que nous disons, c'est que c'est un faux argument, puisque nous ne sommes pas des anti-pubs. Notre idée n'est pas d'interdire toute publicité. Notre idée est d'utiliser pour une fois, de manière vertueuse, le marketing en l'obligeant à se reporter sur les produits qui sont intéressants du point de vue nutritionnel. C'est-à-dire des produits bruts, des fruits, des légumes, des produits de Nutri-Score A et B. C'est ça qui est intéressant et qui est recommandé par les autorités et les nutritionnistes.
Oui, ça veut dire qu'il faudrait que, par exemple, là, il y a la filière fruits et légumes qui fasse des publicités à l'heure où les enfants regardent la télévision pour inciter à manger une pomme. Je ne suis pas sûre que ça suffise pour que les enfants plébiscitent la pomme à la place d'une barre chocolatée.
Mais si, absolument. Parce que regardez, en quoi de l'eau, du gaz carbonique, du sucre et du caramel seraient fun pour les enfants? C'est complètement neutre. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est la recette des colas, des sodas. Ça, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste que c'est quelque chose d'extrêmement sucré qu'il ne faut pas manger trop. C'est devenu fun, c'est devenu trendy à force de marketing. Eh bien, on peut faire exactement la même chose pour de l'eau minérale. Vous avez des grandes marques d'eau minérale actuellement qui font des emballages avec des petits personnages fun pour les enfants et ça plaît.
Oui, ben l'eau minérale, c'est sympa, mais ça fait quand même énormément de déchets plastiques. Et je ne suis pas tout à fait de votre avis.
Ouais, vous recommandez l'eau du robinet quand elle est potable, évidemment.
C'est un exemple pour vous dire qu'en fait, le marketing, c'est un outil qu'on peut utiliser pour n'importe quel produit. Ce que nous refusons, c'est qu'il se concentre, s'agissant du marketing à destination des enfants, sur des produits qui sont mauvais pour la santé.
Yves Lers, le manque à gagner pour les industries, s'il y avait des politiques publiques beaucoup plus coercitives, il y aurait forcément un manque à gagner, il y aurait moins de bénéfices, en tout cas moins de marge. Au regard des économies sur les dépenses de santé, est-ce qu'on peut faire des calculs? Vous vous y êtes essayé, c'est quand même très compliqué.
C'est très compliqué, mais en plus, c'est pas les mêmes. Je dis, les industriels,
ah bah c'est sûr.
Oui, c'est pour le coup, c'est pas les mêmes. Les industriels, j'allais dire, ils s'en fichent des dépenses de santé. C'est pas leur problème. Effectivement, c'est le problème. Ce qu'on disait sur les 150 milliards. En France, on est entre 22 et 55 milliards d'euros.
Mais vous dites, en France, si on diminuait les apports en sel de 30%, le manque à gagner serait de 6 milliards d'euros pour l'industrie agroalimentaire. Voilà, ça me semble énorme.
Ben, c'est énorme le sel, hein. C'est ce que les quantités de sel en sont. Par contre, on peut remplacer le sel par autre chose. Il y a des chlorures de sodium et des chlorures de potassium. Les Finlandais l'ont fait avec leur chlorure de potassium. Ils ont diminué le nombre de morts de maladies cardiovasculaires de 40%.
Entre 40 et 70%. Sans trop pénaliser les industriels, c'est ce que vous voulez dire?
Je ne sais pas, mais ils ont pris la décision. En tout cas. Et apparemment, les industriels sont toujours vivants.
L'agro-industrie, vous le savez, ce sont des emplois souvent peu délocalisables.
C'est le
nerf de la guerre aujourd'hui.
Oui, mais ce qui venait d'être dit par l'UFC, c'est tout à fait ça. Vous faites une autre recette, qui soit une recette qui soit bonne, vous allez continuer à gagner de l'argent et tout. Mais peut-être vous en gagnerez un petit peu moins et vous ferez quand même quelque chose de bon et qui va nourrir les gens, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus. Les perspectives pour 2030 sur l'obésité, si on ne fait rien, c'est une catastrophe. Ce n'est pas la peine de donner les Suisses, c'est une catastrophe. Et pas seulement en France, pas seulement en Afrique, dans le monde entier, en particulier en Chine.
Merci en tout cas à tous les deux. Yves Lers, vous publiez La Fabrique de l'obésité aux éditions Bûcher-Chastel. Extrêmement informatif. Merci à vous aussi Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir, l'Union Fédérale des Consommateurs. Merci d'avoir été en ligne avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter évidemment toutes nos émissions en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé l'émission, vous n'avez plus besoin de connexion Wi-Fi, je vous le précise. Et puis si vous rentrez notre numéro WhatsApp, vous serez informé des émissions à venir pour participer. C'est le 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal. Ça sera juste après Liberdad.
A primeira coisa é gostar de si, pra não se tornar fantoche na mão dos outros por aí. Maloqueira doida, né? Nomes que ouvi, por não acatar, me rebelar. Mulheres são lindas e livres, garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma a rédea da situação, deixa pra garota a direção, elas conduzem. Amiga do espelho, aceitação, batom vermelho, furacão, aceita o conselho, coração, não abuse. Menino, atenção, menino, não é à toa que liberdade é no feminino. Menino, atenção, menino, não é à toa que liberdade é no feminino. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, 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 me deixa.
Brazil, you ready for this London cheers? Who is she? It's R.A.E. Immaculate queen. Just stand up to the king. Never let a man disrespect you how you mean. They come from your body, we're elite human beings. So, la-di-da-day, we like to party. This one's for the girls who don't care about anybody. La-di-da-day, she likes to party. This one's for the girls who don't care about anybody.
Garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma rédea da situação, deixa pra garota a direção, elas conduzem. Amiga do espelho, aceitação, bata um vermelho furacão, aceita um conselho, coração, não abuse. Menino, atenção, menino, não é à toa que
subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir, me deixa.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Un jour,